Vous étiez membre du Parti communiste français, madame. Ben, vous êtes bien fidèle à l'origine de votre engagement.
Alors, et vous aussi, mais il faut regarder comment est fait le patrimoine des ultra-riches aujourd'hui. Et c'est ce que des chercheurs comme Gabriel Zucman, ou même des gens qui sont plus libéraux, je pense à Jean Pisani-Ferry, je pense à un autre économiste qui a signé avec lui hier dans Le Monde une tribune, et pourtant ce ne sont pas des gauchistes, pour
dire
que...
Ils n'ont pas créé un emploi, vos économistes. Ils n'ont pas créé un seul emploi.
Mais c'est votre raisonnement. Alors, je suis en désaccord avec votre raisonnement. Ce qui permet aussi de créer de l'emploi, c'est d'avoir de la solidarité, parce que quels emplois on a aussi envie de créer.
C'est quand même les chefs d'entreprise qui créent des emplois, c'est pas la solidarité.
Oui, enfin, elle permet de recruter des policiers, elle permet de recruter des enseignants pour faire des classes moins nombreuses, elle permet de recruter des infirmières. Je vais pas vous dire toute la liste.
Oui, mais enfin, sans chef d'entreprise, on ne pourrait pas recruter tous ces gens-là.
Alors, Clémentine Autain,
Madame Autain, vous
restez avec nous parce qu'on a Christophe aujourd'hui. Qui est chef d'entreprise qui nous appelle de Haute-Savoie. Oui. Bonjour Christophe.
Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde.
Bonjour.
Déjà, je suis pas un ultra-riche, mais je suis contre toute taxe supplémentaire. Des économies. Et déjà, j'ai jamais compris comment un économiste peut être de gauche. Ils ont jamais été chefs d'entreprise. C'est pas possible.
Il y a des chefs d'entreprise de gauche, hein, vous savez, Christophe.
Oui, généralement, ils font faillite. Mais
c'est pas la majorité de l'espace.
Allez-y,
c'est pas la majorité. Et puis, moi, j'en connais des chefs d'entreprise de gauche dans le paysage. Mais simplement, ils fonctionnent avec des subventions parce que, en fait, c'est des subventions qui les font fonctionner leur entreprise parce qu'ils font de la réinsertion. Avec des subventions, on peut être de gauche, on peut faire fonctionner les entreprises. Mais quand vous avez un budget à créer, hein, et pas à dépenser parce qu'on vous le donne, le monde, il est différent. C'est pas du tout les mêmes objectifs. Et faites des économies. Là, c'est encore un pansement sur une jambe de boîte. Et même si on récupère 20 milliards, on va en faire quoi l'année prochaine?
Ce chiffre est d'ailleurs très controversé, les 20 milliards.
Allez-y, continuez.
Et l'année prochaine, ces 20 milliards, on les retrouvera pas. Moi, j'ai des clients. Vous savez où ils habitent? Ils sont riches, hein. Ils habitent en Italie, 6 mois. Et en Belgique, 6 mois.
C'est soi-disant 20 milliards qui en fait sont peut-être 5 ou 6 milliards par contrainte. Sûr, ouais. Eh bien, ils vont nous coûter 100 milliards ou 200 milliards parce que tout le monde va foutre le camp, toutes les entreprises, tous les actionnaires. Alors, et c'est les salariés qui vont payer à la fin.
Clémentine
Autain, Madame Autain ne le dit pas.
Qu'est-ce que vous répondez à cet argument de dire aujourd'hui il y a des moyens tout à fait légaux pour faire partir son entreprise ailleurs? Qu'est-ce que vous répondez, Madame Autain?
Je réponds d'abord que il faut regarder ce que les chercheurs donnent à voir. Il n'y a pas de corrélation du tout entre un déménagement potentiel de milliardaires qui n'investiraient plus en France et le taux d'imposition dans un pays. Ça n'est absolument pas vrai, c'est absolument marginal.
Ah bon?
Et oui, je sais bien que chacun peut dire ce qu'il veut, mais je pense que c'est important de se reposer sur les sciences sociales qui travaillent ces questions de manière précise, argumentée, étayée.
L'évasion fiscale, ça n'existe pas en France.
La quoi ?
L'évasion, vous dites qu'il n'y a pas eu depuis 20 ou 30 ans quand même une fuite de beaucoup de capitaux de France suite à ces taxations en tout genre.
Non, ce que je dis, c'est que la taxation des milliardaires sur leur patrimoine fera partir de manière absolument marginale des milliardaires.
Bernard Arnault lui-même l'avait dit publiquement qu'il se posait la question, est-ce que son siège social doit rester en France?
Mais Madame Autain,
les Français ne vous suivent plus, le communisme c'est fini.
Mais bon, Madame Autain, excusez-moi, pourquoi est-ce que tout à l'heure vous avez évacué...
La caricature aussi.
Vous avez évacué la question rapidement, mais pourquoi est-ce que vous ne voulez pas, moi je suis comme vous, le taux d'effort fiscal des très riches est largement inférieur au taux d'effort fiscal des classes moyennes et ça me scandalise. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on ramène plutôt le taux d'effort fiscal des classes moyennes à 26% ou même aller à 30% plutôt que de faire monter celui des ultra-riches? Moi, je ne suis pas pour faire payer tout le monde, mais je suis pour qu'on paye moins d'impôts. Donc pourquoi est-ce que vous, par principe, vous n'êtes pas pour?
Eh bien, je vais vous répondre, mais c'est très simple, parce que je ne veux pas fermer des hôpitaux, je ne veux pas fermer des centres sociaux, je ne veux pas diminuer les protections sociales. Donc, en effet, vous avez raison, c'est un choix de société. Est-ce qu'on décide qu'une part de notre richesse est là pour faire en sorte que le reste à vivre soit plus grand et que nous puissions encore faire société ensemble, ou est-ce qu'on décide qu'on n'en a rien à faire et que chacun se débrouille et qu'il n'y a plus de système de solidarité, qu'il n'y a plus d'universalité?
Vous savez, comprend bien que le système de solidarité est dévoyé aujourd'hui.
Merci Madame la députée Autain, merci d'avoir été avec nous, députée écologiste de Seine-Saint-Denis. Merci à Christophe aussi d'avoir été dans les GG. Christophe, vous allez écouter Jean, qui est gérant de société de métallurgie. Bonjour Jean.
Oui, bonjour à tous.
Vous avez écouté votre collègue chef d'entreprise Christophe, vous avez écouté Madame la députée. Quelle est votre opinion, vous, de gérant de société donc dans l'Aude?
Alors, moi perso, qu'on taxe les super riches, ça me gêne un peu, même si je ne suis pas un super riche, mais je ne crois pas que ça va résoudre tous les problèmes. Ce que je disais à votre collaborateur, hein, c'est que je rentre d'un voyage d'affaires là, en Italie, et j'ai discuté avec un peu tout le monde, que ce soit les patrons ou les employés, peu importe. Mais aujourd'hui, eux, ils sont moins taxés que nous sur les salaires, autant les entreprises que les salariés. Ils font 40 heures par semaine. Ils ont la retraite à 65 ans, ils n'ont pas toutes les aides qu'on peut avoir en France. Et surtout, ils ont gardé les métiers qu'on a supprimés sur l'autoroute. Ben, quand vous n'avez pas de bip, ben, c'est un monsieur ou une dame qui vous rend la monnaie. Quand vous allez faire le plein, c'est un mec qui vous fait le plein de la voiture. En fait, des petits métiers comme ça qu'on a supprimés. Alors moi, je veux bien qu'on taxe les super riches et qu'on taxe les entreprises. Et surtout... Qu'on nous dise aux chefs d'entreprise, mais passez à une industrie 4.0, 5.0, 7.0, pourquoi pas 20, et robotiser tout ça. D'accord, très bien. Mais qu'est-ce qu'on fait des gens qui vont être remplacés par les robots? On parle de retraite, on parle de d'argent, mais qu'est-ce qu'on va leur donner à manger à ces gens-là? Enfin, je comprends pas. On est en train de déstabiliser complètement le travail en faisant croire que par magie, que parce que les super riches vont payer 20...
Mais Jean, vous avez raison, mais il faut quand même voir aussi la grande différence entre le niveau de taux de désindustrialisation de la France, qui n'est pas le choix qu'a fait l'Italie. L'Italie, elle a décidé de préserver une partie de son tissu industriel et de préserver une partie de ce tissu industriel qui est fait de toutes petites entreprises. Nous, en France, on a décidé qu'il fallait flinguer l'ouvrier, flinguer l'industrie. Oui. C'est un choix politique, et ce choix politique. Les Français en sont responsables. C'est eux qui ont élu les dirigeants qui ont flingué l'industrie française. Hein. Oui, ça s'est pas fait dans leur dos. Hein.
Non, d'accord, mais quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait?
Il fallait réfléchir avant de voter, peut-être déjà.
Ah ben, vous aussi. Mais je sais rien, mais... je crois que c'est pas bien. Si on en reste là, évidemment, puisque c'est fait, on ne fait plus rien. Et donc, Mme Autain a raison.
Non, mais quand quelqu'un vient et se présente et dit « Moi, je suis la Startup Nation », bah déjà, là, normalement, on devrait avoir les clignotants qui se mettent au rouge.
Tu vois, il y a Mourad Boudjela, le Jean, notre GG, là, qui m'envoie ce petit SMS en me disant « Il ne faut pas oublier que les patrons, en fait, ils payent deux fois. D'abord, ils payent effectivement les impôts sur les sociétés, etc. Et puis ensuite, ils payent l'impôt à titre personnel aussi. Voilà. Donc, les taxes, les impôts. Faut pas faire croire non plus qu'il n'y a pas du tout d'impôts. Parce que, comme me disait Madame Autain, aujourd'hui, bon nombre de patrons se payent avec ce qu'on appelle les dividendes, qui sont peut-être moins taxés que l'impôt sur le revenu. Ouais. Mais il y a quand même, les dividendes sont quand même taxés. Ils sont
très taxés. Et moi, je suis d'accord avec Jean quand il dit qu'on ne valorise plus les métiers de base. Maintenant, d'une certaine manière, dans l'économie française, on veut être tout le monde, il n'y a que des chefs. On veut tous être chefs.
Merci à Jean d'avoir été avec nous. Vous êtes, comment ça va, Jean? Comment va votre secteur d'activité, la métallurgie en ce moment? Ça va? Ça se porte bien?
Alors, oui, on va dire ça comme ça pour garder un bon week-end, mais c'est pas vraiment top.
Ah ouais? Mais bon, vous sentez la conjoncture française par rapport à la concurrence, c'est plus difficile?
Ben, j'arrive à vendre en Italie, mais sinon, après, c'est morose, mais c'est morose dans tous les secteurs. Hein. De toute façon, c'est...
Si vous aviez moins de charges, moins de taxes, ça irait mieux ou pas, franchement?
Ah ben, franchement, oui, bien sûr. Mais bon, ça, c'est un rêve, un doux rêve, mais oui, ça irait bien mieux, oui.
Vous seriez plus concurrentiel, c'est ce que vous voulez dire.
Justement, justement, ça ne doit pas être un rêve, parce que justement, ça fait trop longtemps
que
nos politiques.
Dit tout à l'heure, puisqu'on a voté, c'est comme ça, ça ne vous le va pas.
Mais voter, on est encore souverain, c'est encore le peuple souverain.
Mais on reconnaît qu'il y a, dans le monde politique, qu'on soit de gauche comme de droite, une culture de l'impôt et de la taxe. On est quand même, on parlait d'addiction tout à l'heure avec le tabac, on a une addiction aux impôts et aux taxes.
C'est l'histoire de France. Hein.
Là, on va supprimer des niches fiscales, on va les réduire, ce qui va faire augmenter les impôts de certains Français, parfois de la classe moyenne. On est toujours, vous allez voir, encore des augmentations d'impôts.
L'État monarchique en France, il s'est affirmé par sa capacité à lever l'impôt.
Lever l'impôt, j'avais oublié cette expression. Lever l'impôt.
Mais je rappellerai que les gilets gilets jaunes,
les baillis, les sénéchaux, les intendants, tout ça c'était fait pour lever l'impôt.
Et je rappelle quand même que les jacqueries fiscales, les fermiers généraux, les révolutions en France.
Et ben les fermiers généraux, c'était les fonctionnaires en charge de lever l'impôt et ils en prenaient dans leur poche au passage. Et aujourd'hui, il y a plein de fermiers généraux qui sont devenus des technocrates. Enfin maintenant, ils ont juste changé de nom.
Exactement.
Mais ils font la même chose.
Les gilets jaunes, c'est une jacquerie fiscale. C'était contre la taxe carbone.
Et puis, ne pas oublier
que la plupart des révolutions sont nées de trop d'impôts.
Ne pas oublier rapidement que nous avons des millionnaires au sein du gouvernement, dont le ministre de l'économie, Monsieur Lombard.
On a appris qu'Éric Lombard était le ministre multimillionnaire du gouvernement. Alors c'est quelqu'un qui se dit de gauche, mais pourquoi pas. Et 21 millions d'euros de patrimoine. Il a notamment une villa dans Paris de 240 mètres carrés. Alors, il y a aussi son collègue de l'industrie, Marc Ferracci, qui a autour de 20 millions d'euros de patrimoine. Alors lui, c'est plutôt un héritier. Ce qui fait qu'on a sans doute le gouvernement, l'un des gouvernements les plus riches de la Ve République. Alors, comme quoi, ça ne va pas mal partout.
La taxe Zuckmann, taxer les ultra-riches, bonne idée, oui ou non? On va en parler avec vous au 32-16. Enfin, on va en parler, on va regarder plutôt ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux. Vous dites oui quand même à 54,5%.
J'ai gagné.
C'est une petite victoire de Florent Guebali et...
Un petit peu Barbara
Lefèvre aussi.
Juste précise, les ministres qui ont 20 millions, je crois qu'ils sont même pas concernés par cette taxe.
Non, ils sont pas de qui on parle.
Ils sont 100 millions de patrimoine.
Les gens qui ont 20 millions d'euros ne sont pas assez riches.
100 millions de patrimoine.
Pour être éligible à cette taxe.
Je vais appeler mon ex-comptable pour vérifier là quand même si j'y suis éligible ou pas.
L'opinion a considérablement évolué car jadis ça aurait été 90%.
Dans un instant, avec les grandes gueules, torse nu en centre-ville, est-ce que c'est vraiment choquant ou pas? Faut-il un arrêté municipal pour prendre une amende si on se promène torse nu? C'est au 32-16 que ça se passe.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules. Sur RMC, tous les matins dès 6h30, commencez la journée dans la bonne humeur avec Apolline Matin.
De l'écho, de l'actu, des débats, du rire dès le réveil, un journal toutes les demi-heures, les meilleurs invités et vous au 32-16.
RMC, Apolline Matin, du lundi au vendredi, 6h39. Pour vos pauses musicales, téléchargez l'appli RMC.
RMC vous offre aussi une radio digitale 100% musicale.
C'est RMC Gold.
RMC, bien plus qu'une radio.
Tout RMC en podcast
sur l'appli RMC. La Ligue 1 est terminée. La Coupe de France est terminée. La Première Ligue, la Liga, la Bundesliga, la Serie A, la Ligue des Champions sont terminées aussi.
Mais sur RMC, le foot ne s'arrête jamais. Du 14 juin au 13 juillet, RMC est la seule radio officielle en France de la Coupe du Monde des clubs.
Un podcast exclusif de l'After.
Deux podcasts par jour jusqu'au début de la compétition.
Une radio digitale, RMC 100% Coupe du Monde des clubs, avec tous les matchs en intégralité.
Ne ratez rien. RMC, le foot, c'est là que ça se passe.
Trop pressé aujourd'hui?
Sur RMC, vous avez toute la nuit.
Rediff.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. Il nous reste 10 minutes à passer ensemble. Et si vous avez raté les deux premières heures des GG, elles sont disponibles en podcast. Et d'ailleurs, merci, parce que les podcasts des grandes gueules, ça marche plutôt pas mal.
Alors tout d'abord, bravo à RMC, parce que RMC est la seule radio à avoir 4 podcasts dans le top 12, des émissions les plus podcastées de France. Et nous sommes 7e pour ce mois de mai qui vient de se terminer. Et c'est le meilleur mois de la saison pour les grandes gueules, avec 3,6 millions de téléchargements le mois dernier. Les GG, encore et toujours la première émission de débat d'actualité podcastée, car au-dessus de nous, il y a du sport. Il y a d'ailleurs nos amis du Super Moscato Show qui sont 6e. Ils sont pas loin, on est en train de les rattraper. Il y a l'After Foot qui est 2e. Il y a des émissions d'humour, de faits divers. Mais enfin, la première émission de débat d'actualité, ce sont les grandes gueules, 7e podcast. Merci à tous. Et Rotten sans flamme, 12e.
Alors moi, quand je ne suis pas là, je vous écoute en podcast.
Et merci à notre public qui est si fidèle.
Merci
à
vous.
Et qui est toujours de bonne humeur au téléphone.
C'est un autre moyen aujourd'hui, effectivement, les podcasts d'écouter
RMC.fr
la radio est de plus en plus prisé.
Sur l'appli RMC que vous téléchargez.
Et toutes les apps d'audio, on
bien
le
sûr,
trouve partout.
Bien sûr. Sur les plateformes. On va terminer un dernier petit sujet de discussion, là, parce qu'on a des grosses chaleurs cette semaine. Et donc, c'est le retour du torse nu en ville avec le t-shirt, tu sais, parfois sur les épaules. Alors, est-ce que c'est vraiment une tenue indécente? Vous venez en discuter avec nous quelques instants au 32-16. Alors, vous savez que c'est la question... c'est qu'il n'y a pas de loi qui interdise de se promener torse nu. Et donc, ce sont des arrêtés municipaux. Arrêtés municipaux, notamment pris du côté de la Grande Motte, par exemple.
La Grande Motte, on se souvient que Cannes l'a fait aussi souvent, le maire David Lisnard, parce qu'effectivement, on se lâche dès qu'il fait chaud. On rentre dans les magasins en maillot de bain, torse nu, dans certains commerces. On se balade dans les centres-villes ainsi. Il n'y a plus de différence entre la plage et finalement la vie dans la cité. Alors, est-ce qu'il faut effectivement limiter les torse nus ou est-ce qu'il faut laisser faire les gens?
Est-ce que c'est vraiment une tenue indécente?
Alors moi, je suis partagé.
Tu t'es promené des fois torse nu s'il faisait très chaud ou
non,
pas?
Non, au Touquet, c'est pas possible. Au Touquet,
personnellement, non.
Mais le col roulé est obligatoire.
Mais à l'étranger, oui. Sur un port, par exemple, comme Athènes, au mois d'août, il peut faire extrêmement chaud. Et on peut être éventuellement torse nu. Alors moi, je suis partagé. Je vais te dire pourquoi aux auditeurs. Car on peut être décent en tenue indécente. Et certains sont indécents en tenue dite décente. Donc voilà, il y a aussi la folie des tatouages. Je suis pas du tout contre les tatouages, ça peut être très esthétique, c'est une culture d'origine ancienne magnifique, mais il y a aussi des tatouages qui sont inopportuns et en nombre excessif. Alors personnellement, j'ai pas encore été tenté. Si un jour je vais me faire tatouer, ce serait... Je n'ai qu'un seul choix, c'est l'écu de France. Hop. L'écu de France sur une fesse.
Plus. Attendez, elle est magique celle-là.
Ah oui.
Il faut la sortir, non. Celle-là, elle est magique.
Mais t'as la tentation du tatouage de l'écu de France quand même.
Non, c'est si je vais faire un choix, ce serait celui-là et
restrictif. Fais-le.
Oui, s'il te plaît, fais-le.
S'il te plaît, Emmanuel.
Avant la fin de l'année, la fin des 20 ans déjà.
Flora, tenue indécente, le torse nu ou pas?
Je pense que l'espace public est un espace de domination des hommes sur les femmes et que les hommes prennent beaucoup de place dans les rues, dans l'espace public. À Paris, par exemple, on les voit vraiment prendre leur place et prendre leur espace. Et si on imagine les femmes torse nues, imaginez une femme torse nue, ça s'appelle une fémène, c'est illégal et ça se fait embarquer. Oui. Et ça a une revendication politique derrière. Donc un homme torse nu, il n'y a pas de raison qu'il ait ce droit supplémentaire aux femmes. Donc je pense que tout le monde met un t-shirt dans la rue et à la plage, chacun fait ce qu'il veut.
Maman, d'accord avec ça ? De se déplacer sur la voie publique. Et moi, c'est plus rentrer dans les commerces torse nu qui me gêne.
Non, mais il y a la décence. Je suis désolée. Tu te mets torse nu pour aller à la plage, pour te baigner, etc. Une fois que tu sors de la plage, tu es dans l'espace public. Dans l'espace public, on n'est pas obligé de se trimballer. Enfin, au-delà de la décence, excusez-moi, mais le plus souvent... quand on est un petit peu au bord de la mer, c'est pas seulement la décence, excusez-moi, pour certains, c'est carrément, c'est pas joujou à voir non plus. Hein. Donc, si encore t'es le beau gars avec sa tablette de chocolat, je veux bien, mais enfin, souvent, c'est un peu la claquette, le short et un peu on va dire... le bide qui se promène, c'est pas très joli. Voilà. Mais d'ailleurs, ça vaut aussi pour les filles. Excusez-moi, mais moi, les filles en crop top ou les filles qui se baladent en maillot de bain avec juste le pareo. Et là aussi, c'est pas non plus extraordinairement beau à voir. Donc moi, je considère qu'il y a de la décence. Tu mets un t-shirt, tu t'habilles, c'est normal. Et rentrer dans les commerces, ça m'insupporte. Je trouve vraiment
ça
indécent possible.
Ça a été interdit de se promener torse nu en ville jusqu'en 1994.
Ah tiens.
Oui. On considérait ça comme un outrage à la pudeur et c'était sanctionnable d'une amende allant jusqu'à 15 000 francs à l'époque et 2 ans de prison. Mais... Et on a changé et désormais, seule l'exhibition sexuelle dans un lieu public est punie. Oui. Donc on a finalement toléré ça, mais avant ce ne l'était pas en 94. Avant 94.
C'est pas une question d'exhibition. Moi je suis question de l'exhibition, c'est juste que c'est pas élégant, c'est pas... Voilà,
c'est ça, l'élégance, c'est très subjectif.
Ah non, mais
élégance.
En même temps, si on se dit les choses, en l'état des problèmes de la France, c'est peut-être pas non plus la priorité des priorités.
Non, mais vous voyez aussi, c'est un message que t'envoies parce que nous, par exemple, dans les établissements scolaires, à la fin de l'année, quand il commence à faire chaud, nous, on rappelle aux parents, par exemple, que les shorts, c'est interdit, que les crop tops, c'est interdit.
Comment les shorts, c'est interdit?
Les filles et les garçons, ils peuvent pas venir en short. Voilà, Bermuda, oui, mais tu viens pas avec le petit short court. D'accord, les garçons, ils doivent venir aussi habillés correctement. Les filles, pas de crop top. On est obligé. Mais moi, je pense que c'est important de faire comprendre, notamment aux jeunes, qu'il y a des cadres dans lesquels il y a une espèce de cadre vestimentaire. Tu t'habilles pas de la même façon quand tu vas à la plage, tu t'habilles pas de la même façon quand tu rentres dans un magasin, et tu t'habilles pas de la même façon quand tu vas travailler. Oui. Or, aujourd'hui, on revient à notre truc du départ. Tout est interchangeable. Tout vaut tout. Alors, pourquoi pas aller bosser torse nu? Alors, pourquoi le caissier, il vient pas nous travailler torse nu s'il n'y a plus de clim? Allons-y, roule ma poule.
C'est le combat d'Alain Marchal. Dès que les beaux jours reviennent,
ils veulent travailler torse nu.
Non, justement, ils ne supportent pas voir des gens qui arrivent en tongs et en short.
Eh ben voilà.
Non, moi je trouve ça c'est indécent.
Je te jure, je trouve ça
indécent.
Mais attends, les
tongs. Écoute, au mois d'août, vous savez qu'avec Olivier, on se partage l'été. Au mois d'août, quand je suis là, il y a effectivement moins de monde. Mais j'ai déjà fait la remarque. J'ai vu arriver des gens ici dans les locaux, des garçons, qui étaient en short, en maillot de foot et en tongs. Je suis quand même, putain, tu viens pas à la plage.
Voilà, tu viens au travail.
Tu viens au boulot. Alors,
ça, t'es surprise.
Hein, je te jure.
Mais parce que le lieu de travail.
Surtout au mois d'août, on sait que c'est le mois un peu cool.
Tu te promènes en ville en tongs et tu mets dans un petit sac.
Voilà.
Tu mets des chaussures décentes et tu viens ici, dans les locaux. Tu viens avec des chaussures. Je ne dis pas de venir forcément en chaussures.
Il y a une nouvelle génération parce qu'il y a une certaine Anaïs Sen, je ne sais pas si vous la connaissez, qui me souffle dans l'oreillette. C'est la vieille France que vous défendez.
Mais pas du tout. Donc,
je pense Anaïs Sen, c'est la vieille France.
C'est l'élégance.
Anaïs serait donc la jeune France.
Eh ben, les claquettes, c'est pas l'élégance. Je suis désolée.
Avec Anaïs et Louis Gerbier, on va faire une journée tongue pour t'énerver bientôt. Au GG.
Non, mais moi, je pense qu'il faut apprendre aux jeunes
Est-ce qu'une grande gueule a le droit de venir en tongs, Alain, l'été?
De quoi?
Est-ce qu'une grande gueule aurait le droit de venir en tongs l'été?
Je ferai la remarque.
Oui. T'as raison.
Et est-il
t'as
exact raison, qu'on n'a pas le droit de conduire une voiture en tongs?
Oui, ça c'est vrai, parce que c'est dangereux.
C'est dangereux, ça.
Mais ça, on peut le comprendre. Tu vois, j'ai des tongs chez moi, Annie, je les mets de temps en temps. Quand je conduis pieds nus.
Exactement. Moi aussi.
Oui, alors tu vois, c'est ce qui est dangereux aussi.
C'est pas pratique.
Mais ça, c'est pour les raisons de sécurité. Moi, je vois sur les scooters.
Voilà. Des gens tenus sur les scooters et en short
qui sont là, c'est dangereux parce que
vous défendez la liberté toute la journée et quand il s'agit
moi, je
de
interdire,
mais j'ai mis une opinion.
C'est
j'ai
pas mis une opinion. Tongs. Alors là, le drame.
Voilà, c'est liberticide maintenant de demander aux gens de s'habiller quand ils rentrent dans un supermarché.
Vous êtes étonnant. Estelle Denis. Là, tu as Jérôme Lavrieux qui est là-bas. Alors, l'élégance incarnée.
C'est l'élégance
chic.
Tu sais quoi, c'est l'élégance UMP. C'est
oui, ça, voilà. Mais il n'a pas mis ses tongs.
Et il a. Oui, mais je suis sûr qu'il met le pull des fois sur les épaules, Jérôme Lavrieux.
Et uniquement quand il va à la boule.
RMC, les grandes gueules.
Les grandes gueules, c'est tout à l'heure en direct sur RMC, RMC Story. Trois GG seront là. Jean-Loup Bonamy, le professeur de philosophie, le cheminot de Vierzon, Bruno Poncet. Et puis nous serons avec la coach de vie, Joël Dagosséry. Et comme tous les jours, c'est bien sûr vous qui prenez la parole au 32-16. Alors à tout à l'heure.
RMC, 9h midi, les grandes gueules. Tous les soirs, entre 18h et 20h sur RMC, c'est Roten sans flamme, avec Jérôme Roten. 2 heures de débat foot, autour de l'actu du moment. Des invités d'exception, les analyses d'après-match, d'avant-match, avec la Dream Team Foot RMC. Et pour détendre tout ça, Julien Cazard vous livre son journal du foot à sa façon. Roten sans flamme, du lundi au vendredi, 18h-20h sur RMC.
Alexa, mets RMC.
D'accord.
RMC est disponible sur toutes vos enceintes connectées. RMC, partout, tout le temps. RMC Gold n'est pas en FM ni en DAB+.
Vous voulez écouter RMC Gold dans votre voiture? Téléchargez l'appli RMC. Connectez votre téléphone à votre véhicule en USB ou en Bluetooth. Lancez l'appli RMC, le lecteur RMC Gold est sur la première page. Vous ne pouvez pas vous tromper. Maintenant, profitez du meilleur des années 80 et 90. Sur RMC, la nuit, c'est le meilleur de la journée. Rediff.
Richard Ramos, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes député, député MoDem du Loiret. Aujourd'hui, il y a 1500 marques qui l'ont adopté. Ça représente à peu près 60% du marché. Pourquoi ça bloque? Pourquoi c'est pas obligatoire?
Parce qu'il y a quelques industriels. Il y a beaucoup d'industriels qui aujourd'hui sont contents du Nutri-Score. Ils disent même que ça a amélioré la recette. Il faut savoir, quand on voit le Nutri-Score, ça veut dire que c'est moins de morts, moins de maladies. Et c'est assez rare, c'est ce qui a été plébiscité par le consommateur. C'est lisible et ça marche, ça sauve des vies. Mais il y a des industriels, ça les arrange pas. Quand je, pardon de dire une marque, quand je bois de l'Actimel, il y a des fois, parfois plus de sucre que dans un soda. Quand j'avais une marque Björg qui était bio, je croyais que c'était bon, merde, c'était bourré d'additifs. Le Nutri-Score nous a dit ça. Alors il y a des gens qui résistent, il y a des gens qui veulent pas ce combat que je mène depuis des années contre la malbouffe au nom du fric, parce que le nouveau algorithme, vous savez, il y a un algorithme qui regarde ce qu'il y a dans le produit et il dit ah c'est bon, c'est pas bon. Il y a un nouvel algorithme qui s'est amélioré et qui a affiné le Nutri-Score. On a été chercher des choses.
On était sur le gras, désormais on est aussi sur le sucre, désormais et donc effectivement on a une photographie plus précise de ce que représente vraiment le produit.
On avait sel, sucre, gras, on a été chercher plus de choses. Pour le petit déjeuner, on a été chercher les produits où il y a plus ou moins de fibres. On a, vous savez, il y avait des gens qui avaient mis des édulcorants, ce qu'on appelle l'aspartame, pour ne pas mettre de sucre. Ils avaient une bonne note au Nutri-Score. Maintenant, le Nutri-Score, il se dit, attention, l'aspartame, ça peut être cancérogène. Je le regarde dans mon logiciel. Et donc, j'ai affiné. Et il y en a des gens, ça ne les a pas arrangés qu'on dise la vérité aux consommateurs.
Mais pardon, Richard Ramos, avant même qu'on affine avec le nouvel algorithme, c'est-à-dire avec ce Nutri-Score, j'allais dire deuxième version, déjà la première version, il y a beaucoup de marques qui ne le faisaient pas, qui ne jouaient pas le jeu.
Mais bien évidemment, parce qu'il y avait plein de gens qui ne voulaient pas dire qu'ils faisaient des produits qui n'étaient pas bons pour la santé. Et ils ne voulaient pas le dire aux consommateurs. On avait des publicités pour les enfants, on avait un certain nombre de choses qui étaient très flatteurs. Mais on ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Et cette non-transparence, c'est ce qui leur permettait de faire leur business. Mais ce que ne comprennent pas ces marques-là, c'est que la demande de ceux qui nous écoutent ce matin, c'est une demande de transparence. Quand je bouffe plein de Ferrero, si j'en mange 50, je sais que ce n'est pas bon pour moi. Donc je ne vais pas en mettre. Mais il y a des produits, on ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Et là, c'est dangereux parce que vous mangez un produit ordinaire avec vos enfants, et ce produit-là que vous croyez être bon, il n'est pas bon. Et le Nutri-Score, ça a révélé cette demande consommateur qui est la demande de transparence.
Et on le sent bien, c'est vrai que moi, quand je fais mes courses, désormais, s'il n'y a pas le Nutri-Score, de toute façon, je comprends. Je comprends que s'il n'y a pas le Nutri-Score, c'est que sans doute, il est mauvais. En tout cas, je trouve ça louche. Donc, il y a presque un intérêt. Enfin, je le dis vraiment en tant que consommatrice, quand je suis dans les rayons, moi, s'il n'y a pas le Nutri-Score, j'en déduis qu'il est mauvais. Donc, la transparence serait bien mieux pour tout le monde.
Mais bien évidemment, pour le consommateur, et pour beaucoup, beaucoup d'industriels. Simplement, le consommateur va être gagnant. Et pourquoi on en est là aujourd'hui en France? Pourquoi on est si nombreux, 2500 chercheurs, près de 150 parlementaires de tous les bords politiques? C'est qu'on devait l'avoir au Parlement européen. Et les lobbyistes, vous savez, ceux qui font pression sur le politique, ils ont, notamment l'Italie, ils ont fait en sorte qu'il n'y ait plus de débat au Parlement européen. C'est pour ça qu'on revient sur le débat français. Mais vous savez...
Mais on achètera quand même du Nutella de temps en temps, même s'il y a marqué
mais
« eux ».
Exactement, ce n'est pas grave. Moi, vous savez, je suis même prêt à dire, et je bagarre avec Serge Hetzberg, qui est ce professeur, le papa du Nutri-Score. J'ai eu Serge au téléphone, je lui dis « moi, je défendrai auprès de toi qu'on fasse une exception pour tous les produits AOC et AOP ». Tous nos produits charcutiers, fromagers qui sont à la coupe. Allez, pour l'instant, on les exonère de cette obligation-là parce qu'il y a une tradition française. Allez, on est prêt à ça. Moi, je suis prêt à lâcher ça.
Et donc, tout ce qui est à la coupe.
Tout ce qui est à la coupe et tout ce qui est surtout, pardon, sous signe de qualité. Vous savez, les AOP, les AOC.
Les appellations d'origine contrôlée, d'origine protégée.
Et donc là, on pourrait les exonérer parce qu'il y a une tradition française. Et sur le reste, on met partout. Mais vous savez, Apolline de Malherbe, le combat sur la malbouffe, c'est tous les jours. Quand je vois aujourd'hui Lidl qui est en train de dire à nos paysans, je vais vous payer 6 centimes de moins, c'est-à-dire les faire crever, et je veux que vous remettiez des OGM. C'est qu'on est des combats qui sont journaliers.
Ça se passe en ce moment.
En ce moment-là, aujourd'hui où je vous parle, il y a Lidl qui est en train de dire sur des dizaines de millions de litres de lait, qui est en train de dire aux paysans, eh bien maintenant, vous avez le droit de mettre des OGM et je veux que vous soyez moins cher. Et depuis que Michel Biérot, le patron de Lidl, a été viré en 48 heures, même si je combattais des fois avec Michel Biérot, j'ai dit des fois des mots trop forts quand j'ai dit la Gestapo est revenue, mais on est en train de tuer nos paysans en leur disant je vais t'acheter du lait moins cher, mais je vais rajouter des OGM.
Le coup de gueule ce matin de Richard Ramos. Merci d'être venu dans ce studio.
Pour vos pauses musicales,
Téléchargez l'appli RMC.
RMC vous offre aussi une radio digitale 100% musicale.
C'est RMC Gold.
RMC, bien plus qu'une radio.
RMC.
Les meilleurs moments de la journée, toutes les nuits sur RMC. Rediff.
Arthur Delaporte, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes député, député socialiste du Calvados et vous êtes à la tête de cette commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. On va citer le nom, même si je dois vous avouer que je ne les connaissais pas tous avant aujourd'hui. Alex Hitchen, le couple Julien et Manon Tanti, Adé Laurent, Nasdas. Pourquoi ces cinq-là et pourquoi est-ce qu'ils posent problème ?
Alors, ces cinq-là, c'est parce qu'ils sont remontés notamment des signalements qui nous ont été faits par les citoyens. On avait lancé une grande consultation citoyenne il y a de cela un mois et demi. On l'a clôturée à la fin du mois de mai. On a eu plus de 30 000 réponses. Et parmi ceux qui revenaient de façon récurrente quand on demandait quels sont les influenceurs qui vous choquent, il y avait ces noms-là. Et puis aussi, quand on a fait des tables rondes sur des thématiques spécifiques, par exemple sur le sexisme, on nous parlait... par exemple, beaucoup d'Adé Laurent ou d'Alex Hitchens. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi de les convoquer, pour qu'on puisse à la fois discuter avec eux pour savoir s'ils comprennent bien qu'il y a énormément de mineurs qui regardent leur contenu. Et puis, deux, voir leur modèle économique, parce que tout ça, tous ces contenus problématiques rapportent beaucoup d'argent.
Et c'est épouvantable. Tout à l'heure, Mathieu Béliard nous dressait notamment le portrait de Nasdas, des propos de Nasdas qui est suivi par combien de personnes ils sont suivis d'ailleurs ?
Alors, Nasdas, c'est 700 000. C'est presque un petit joueur comparé... Nasdas, c'est 4 millions. Mais on a des petits joueurs. Alex Hitchen, c'est 700 000 abonnés. Mais finalement, c'est pas tant le nombre d'abonnés qui compte, c'est le nombre de vues, de likes qu'on va faire. Et par exemple, ça peut être des vidéos à 2, 3, 4 millions de vues quand elles sont un peu virales. Et puis c'est aussi des lives. Les lives, c'est de la diffusion de vidéos en direct qui est quasiment incontrôlable, où on peut dire tout et n'importe quoi. Et finalement, ça aussi, ça pose problème parce que, je le redis, ce sont des très jeunes qui suivent ça. Moi, je vais dans des classes de CM2, je leur demande des influenceurs qu'ils connaissent. Ils me parlent de Nasdas, d'Adé Laurent, parfois en rigolant un peu parce qu'ils sentent bien qu'il y a une forme d'interdit. Mais on va dire qu'à l'âge de 11 ans, il y a un jeune sur deux qui a un compte TikTok et qui est potentiellement exposé à ce
contenu. Alors qu'officiellement, on le sait, c'est soi-disant interdit au moins de 13 ans. On y reviendra. Mais quand on regarde, effectivement, on a les propos que nous rapportait Mathieu tout à l'heure. Nasdas, il dit par exemple à une jeune fille qui suit sa communauté, il lui dit au nom de sa communauté, donc ma communauté me fait remonter des problèmes de tenue. Elle me dit elles sont habillées comme des putes, je vais devenir autoritaire. Tu te changes. Cette agressivité, cette violence, ce sexisme, ce virilisme, c'est épouvantable. C'est aussi de la violence, c'est aussi des scènes qui ne sont pas coupées avec des couteaux, avec des bagarres.
C'est des téléphones qu'on envoie à la figure d'une femme si elle a été un peu trop aguicheuse. Voilà, ça c'est la réalité de ce qui se passe chez Nasdas. Mais c'est vrai que c'est presque pire encore. Et c'est bizarre de dire ça comme ça.
Comment ça
chez Alexis Chance, je sais pas, je vous prends une ou deux citations comme ça. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit « Vous prenez son téléphone, si elle refuse de le donner, c'est une pute, fin de relation. Lorsqu'elle fait une erreur, il faudra la punir. » La majorité des femmes, énormément de putes, peu de filles bien. Voilà un peu le genre de propos qui sont véhiculés par ces influenceurs
et
qui
sont énormément diffusés. Ils sont toujours sur les réseaux là.
À l'heure où je vous parle, leurs comptes sont encore actifs.
Ces propos-là, ils sont bien sur les téléphones portables de nos ados.
Bien sûr. Et Adé Laurent, par exemple, il vend des formations de séduction. Il explique évidemment que pour donner du plaisir, il faut avoir un sexe énorme. Et donc, il passe son temps à parler de son sexe, à parler de ses performances, à parler de son nombre de conquêtes. Alors évidemment, c'est bien quand un garçon a beaucoup de conquêtes. Par contre, une fille, non. C'est par exemple Hitchens qui diffuse quelque chose qu'on appelle le body count. Et donc, le body count, c'est le nombre de relations sexuelles qu'on a eues. Et si on en a eu trop, quand on est une femme, on est une pute. Par contre, pour un garçon, c'est normal.
C'est
normal de tromper sa femme. Par contre, pour une femme, c'est pas normal de tromper son compagnon. Donc, vous voyez, en fait, tout est asymétrique et on diffuse des normes qui sont extrêmement genrées, extrêmement sexistes.
Alors, heureusement que vous êtes là, j'ai envie de dire. Franchement, je trouve ça effrayant. Je me dis que pendant des années, et pardon, mais je me dis même nous, les journalistes, les politiques, je me souviens de polémiques pendant des semaines sur le fait qu'il y avait des pages bleues pour les garçons et des pages roses pour les filles dans les catalogues de jouets de Noël et on en faisait un scandale. Là, on est sur quelque chose d'absolument abominable, immonde, et qui se trouve effectivement dans le téléphone de tous nos ados. Qu'est-ce qui va suivre ? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez leur dire et quels sont vos outils pour mettre fin à cette propagande sexiste, outrageuse, genrée, abominable pour nos enfants?
Alors déjà, dire que notre commission d'enquête, ce n'est pas un tribunal, ça vise à comprendre des mécanismes. Donc nous, on n'est pas là pour les punir eux, mais on est là surtout parce qu'on auditionne TikTok jeudi prochain et qu'on demandera à TikTok aussi de nous expliquer pourquoi il laisse ses contenus sur des plateformes qui sont accessibles aux mineurs. Et donc il y a un enjeu premier, c'est la régulation de l'âge. Comment on fait en sorte que des moins de 13 ans, mais plus largement des mineurs, n'aient pas accès à des choses qui soient interdites aux mineurs? Donc ça, c'est la première chose qu'on doit faire. Ça doit se faire au niveau français, mais surtout au niveau européen. Et d'ailleurs, l'essentiel de cette régulation, aujourd'hui, elle est possible. Il y a à Bruxelles, on a été les voir avec Laure Miller, qui est la rapporteure la semaine dernière, un service d'enquête de la Commission européenne qui travaille sur les plateformes du numérique. Et si TikTok ne respecte pas, mais comme l'ensemble des plateformes, hein, parce qu'on parle de TikTok, mais ces influenceurs, ils sont aussi sur Instagram, sur Snapchat, sur X. Et donc, si les plateformes ne font pas leur travail, à un moment, il faut couper les plateformes. Donc voilà, il faut à un moment taper du poing sur la table.
Mais ça, c'est pas forcément vous, à l'issue de cette commission, qui pourrait le faire.
Sûr, mais l'objectif de la commission d'enquête, c'est de voir ce qui est sur la table, de voir ce qui est en œuvre, et de voir aussi si dans notre droit français, là on parle beaucoup de sexisme, il y a moyen de réguler, de faire évoluer les choses. Par exemple, le sexisme, on avait Bérangère Couillard, qui est la présidente du Haut Conseil à l'égalité la semaine dernière en audition, elle nous disait on manque de base légale pour pouvoir punir tous ces faits-là, alors qu'on voit bien qu'ils sont extrêmement violents et extrêmement problématiques.
Extrêmement violents, très problématiques, difficiles à réguler. Un mot encore sur le métier d'influenceur. Au fond, on s'étonne presque qu'ils influencent nos enfants, mais c'est leur métier, c'est ce qu'ils monnaient aujourd'hui.
Et alors certains gagnent beaucoup d'argent de différentes manières, soit par des placements de produits problématiques, par exemple Adé Laurent faisait de la pub pour de la crypto-monnaie, ou Julien Tantier aussi, c'est de façon totalement dérégulée. Enfin voilà, vous allez faire ce qu'on appelle du copy trading, donc vous copiez des placements financiers, vous pouvez perdre tout votre argent. Ou alors, deuxième manière de gagner de l'argent, c'est dans les lives. Vous allez demander en live à ce que les gens vous donnent de l'argent. Et donc il y a comme ça des jeunes qui vont donner 500, 1000, certains ont donné même jusqu'à 150 000 euros à leurs influenceurs préférés, certains se sont ruinés pour cela. Et puis il y a aussi TikTok qui va donner beaucoup d'argent parce qu'on est payé à la vue. Et donc voilà, tout ce modèle économique, évidemment, c'est de l'influence problématique. À côté de ça, il y a aussi de l'influence responsable. Hein. Moi, je suis l'auteur de la loi influenceur. D'ailleurs, on est le 10 juin aujourd'hui, ça fait 2 ans, jour pour jour, qu'on a fait rentrer en vigueur la loi influenceur. Ça a contribué quand même à assainir le secteur, à faire qu'il y ait plus de transparence. Donc il faut continuer là-dessus, parce qu'aujourd'hui, le Far West existe toujours, même si c'est...
Le Far West, voilà, c'est sur les réseaux sociaux. Arthur si Delaporte, de merci. Avait encore il y a deux. Et honnêtement, on en reçoit beaucoup des politiques ici, mais quand vous avez chacun comme ça un sujet dont vous vous emparez comme vous le faites depuis plusieurs années, c'est effectivement satisfaisant de se dire que vous connaissez votre dossier, que vous tirez ce fil, et j'espère bien que vous serez suivi. Arthur Delaporte, donc député socialiste du Calvados.
Merci d'en parler.
Président de la commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. Nous tous, parents, soyons particulièrement attentifs.
RMC, les grandes gueules.
Bonjour, c'est Alain Marchal, tout à l'heure de 9h à midi. 3 GG vous attendent en direct sur RMC, RMC Story, pour du débat, pour de la discussion. Les 3 GG, le professeur de philosophie Jean-Loup Bonamy, le cheminot de Vierzon Bruno Poncet et la coach de vie Joël Dagosséry.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Pour ne plus rien rater d'RMC,
téléchargez l'appli RMC. RMC.
Les meilleurs moments de la journée, toutes les nuits sur RMC. Rediff.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
L'actualité du jour, et c'est cette proposition de Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, qui souhaiterait diviser par deux la durée de l'indemnisation des chômeurs. Son idée serait de passer de 18 à 9 mois. Écoutez Gérald Darmanin, invité d'Apolline de Malherbe ce matin.
Il y a plein de gens qui ne bossent pas. Il faut les forcer à aller travailler. C'est pour ça que personnellement, plutôt que de repousser l'âge de la retraite, je ferai une grande réforme de l'assurance chômage. Aujourd'hui, c'est 18 mois d'indemnisation qu'on est au chômage.
Vous voulez réduire à 6 mois ?
Entre 6 et 9 mois.
Ah ouais, entre 6 et 9 mois, la réduction de la durée d'indemnisation chômage, Jérémy, ce n'est pas la première fois qu'on entend cette proposition. Est-ce que ça marche d'ailleurs de réduire la durée d'indemnisation ?
Visiblement, oui. En tout cas, c'est ce que dit un tout récent rapport de la DARES, le service d'études du ministère du Travail. Alors qu'en moyenne, un demandeur d'emploi reste aujourd'hui inscrit en moyenne 326 jours à France Travail. L'enquête, elle porte sur les conséquences du décret de juillet 2019, décret qui prévoit une baisse de 30% des allocations chômage à partir du 7e mois pour les demandeurs d'emploi de moins de 57 ans, dont le salaire mensuel brut de référence est d'environ 4 500 euros. Donc c'est pour les hauts revenus. Mesure censée faire des économies à l'assurance chômage forcément, mais aussi justement à inciter les chômeurs à reprendre plus rapidement un emploi. C'est en vigueur, je l'ai dit, depuis juillet 2019. Donc on a du recul. Et le bilan, bah, selon la DARES, bah, c'est que ça fonctionne. Les personnes concernées anticipent en fait dès les premiers mois de chômage la baisse à venir de leurs revenus et donc retrouvent plus rapidement un emploi qu'avant la réforme, elle recherche plus activement. Ce n'est pas tout. D'après la DARES, ce retour à un emploi salarié ne s'accompagne pas en général d'une dégradation des caractéristiques de l'emploi. C'est-à-dire qu'on ne brade pas un CDDI qu'on avait auparavant contre un CDD pour retrouver absolument un emploi. Non, généralement, quand on avait un CDI, on retrouve un CDI. De même, le salaire de base du nouvel emploi correspond à celui de l'ancien. D'où la question de savoir s'il ne faudrait pas étendre cette réforme à tous les demandeurs d'emploi.
Alors, faut-il réduire de moitié la durée d'indemnisation chômage? Je vais commencer avec vous, Fred Hermel.
Il faut sauver le système, parce qu'on a un système merveilleux en France. Et ça marche pour le chômage, ça marche pour plein de choses de notre État-providence. Nous restons un État-providence fantastique par rapport à l'immense majorité des pays au monde. Et comme je veux absolument, comme j'y tiens et que je veux sauver le système, il faut adapter. Il faut adapter. Ça ne me paraît pas incroyable d'inciter les gens à retourner à l'emploi. Parce qu'il y a des gens qui se plaisent bien, ils disent, bah, de toute façon, j'ai 2 ans devant moi, j'ai le temps.
Oui, t'as des gens qui ont cotisé 30 ans. Hein, mais...
Et là, c'est la deuxième partie de mon argument. C'est que moi, ça fait 35 ans que je bosse. Ouais. J'ai pas été une minute au chômage dans ma vie. Voilà. J'estime que si jamais il m'arrive un accident professionnel... Bon, déjà, ça sera dur à encaisser pour moi, parce que je ne sais pas ce que c'est qu'être au chômage, qu'il me faudra sûrement un moment pour pouvoir retrouver quelque chose. Donc moi, j'estime qu'il n'y aurait pas un moyen de calculer qu'à partir d'un certain moment de cotisation, sans jamais avoir bénéficié d'assurance chômage, on ait peut-être un petit peu plus de temps pour retrouver un emploi que ceux, et on en connaît, qui font 6 mois, qui se mettent au chômage quelques mois, qui reviennent, etc. Encore, pour toujours... Dans ce genre de décision, c'est du cas par cas. C'est du cas par
cas. Mais tu peux pas faire aujourd'hui une loi sur le chômage au cas par cas, c'est impossible.
Non, en fait. Mais qu'il y ait des variables et qu'après ce soit au niveau d'assurance chômage, c'est France Travail de toute façon, hein, qu'on étudie les cas en disant voilà, monsieur, ça fait 35 ans qu'il cotise, on peut lui laisser 2 ans pour essayer de retrouver un travail. Bon, je vois, moi j'ai 55 ans. La limite aujourd'hui c'est 57 ans là. 55 ans, c'est pas facile de retrouver un emploi. Hein. Franchement, hein, donc on ne peut pas traiter de la même manière quelqu'un qui a 55 ans, qui bosse depuis 35 ans,
oui,
que quelqu'un qui a 30 ans et qui cotise depuis 5 ou 6 ans.
Anne-Sophie Saint-Père, est-ce que vous êtes d'accord avec Gérald Darmanin? Est-ce que c'est ça la solution, finalement, pour pousser les Français de nouveau vers l'emploi?
Alors non, je ne suis pas d'accord. Pour la question de sauver le système, il faut quand même rappeler que l'UNEDIC était excédentaire en 2024, a un déficit, mais qui est quand même assez faible, prévu pour 2025. Et le MEDEF, comme les syndicats, explique que s'il y a des difficultés avec l'UNEDIC, c'est parce que l'État ponctionne dedans. Donc c'est pas forcément une problématique de cotisation. Ensuite, pour moi, ça n'est pas une bonne solution parce qu'on n'est pas en situation de plein emploi. C'est-à-dire qu'il y a 5 millions de personnes qui sont au chômage, dont 50% d'ailleurs ne touchent aucune indemnité. Et il y a entre 400 000 à peu près offre d'emploi. Donc en fait, il y a une offre d'emploi pour 10-12 chômeurs. Donc en fait, c'est pas forcément une question de choix. Ça va créer aussi des situations injustes parce qu'il y a des disparités régionales. Il n'y a pas les mêmes possibilités d'emploi dans toutes les régions. Et puis ça peut aussi créer, ça a des risques économiques et sociaux très forts, notamment le risque de précariser certaines personnes. Et la précarisation des personnes, c'est à la fois problématique d'un point de vue humain, mais même économique. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont avoir plus peur de consommer, qui ne pourront même plus consommer. Et donc en fait, on peut s'enfoncer dans une spirale de récession à appauvrir les gens. Et quand on avait fait passer la réforme du chômage, l'argument c'était quand le chômage s'aggrave, on protégera mieux les chômeurs. Et là, en l'occurrence, il y a une hausse du chômage, il y a des fermetures d'usines, il y a des fermetures de magasins. Et là, on est en train de nous dire qu'on va renforcer les règles. Donc en fait, je pense qu'on pousse vers une situation de récession, alors que encore une fois, les caisses de l'UNEDIC, il n'y aurait pas les ponctions de l'État, elles se porteraient beaucoup mieux.
Oui, mais Rémi dit que ça marche. Bah voilà, le rapport de la DARES, il est clair.
Oui, mais c'est sur une toute petite portion des chômeurs. C'est sur des personnes qui ont des hauts revenus, donc qui seront plutôt plus qualifiées, avec plus d'expérience. Le chômage, ça concerne toute une variété de gens. Je ne pense pas qu'on puisse généraliser sur le marché de l'emploi. Et encore une fois, pour une offre d'emploi, il y a 10 à 12 chômeurs en face, donc ça n'est pas possible de tous les faire disparaître. C'est pas une question de volonté. Il faut arrêter de stigmatiser les chômeurs comme s'ils faisaient rien. C'est hyper difficile.
Par ailleurs, les chômeurs, c'est qu'on a travaillé avant.
Il y a aussi un problème. C'est ça. On a travaillé avant. Il y a aussi un problème d'adéquation entre les compétences et les offres d'emploi. Donc, si on veut se former pour de nouveau devenir utile sur le marché du travail, ça prend du temps. Il y a beaucoup de création d'entreprises, de gens qui sont au chômage. Donc, tout ça, il faut le prendre en compte.
Jérôme Lavrieux, est-ce que plutôt que de réduire de moitié la durée de l'indemnisation des chômeurs, on devrait moduler ces indemnisations en fonction, justement, comme le disait Fred, du total d'années de cotisation et du temps qu'on a travaillé, quoi. Effectivement, est-ce que c'est normal d'indemniser un chômeur de la même manière alors qu'il a cotisé 30 ans et un autre qui a cotisé 2 ans, quoi.
Mais mes deux acolytes l'ont démontré. L'argent qu'on touche quand on est au chômage. Déjà, on peut être inscrit au chômage sans être indemnisé.
Tout à fait.
Hein ? Parce qu'une fois que vous avez dépassé ces fameux 180 jours,
c'est fini.
C'est fini. Sauf si vous tombez dans l'ASS ou le RSA après. Mais c'est
vous êtes inscrit en France Travail quand même.
C'est de la solidarité nationale. C'est le chômage, ce n'est pas le fruit de la solidarité nationale. C'est le fruit d'une cotisation. D'accord ? Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ça fonctionne à peu près bien. C'est co-géré, non pas par. C'est pas géré par l'État, c'est co-géré par les syndicats et le patronat.
C'est peut-être pour ça que ça fonctionne bien d'ailleurs.
Comme la GIRC et l'ARCO. Ils sont excédentaires, c'est géré par les deux. De où l'État va se venir se mêler ? Il y a déjà une loi, on est champion du monde, voilà, il y a un accident de tondeuse, on fait une loi sur les tondeuses le lendemain parce qu'il faut faire le 20h du Premier ministre. C'est toujours comme ça. De où. On a à se mêler de ça. L'État qui est incapable, dans ce qui le concerne, de régler des problèmes, va dans une chose qui ne le concerne pas, régler le problème. Ce qui compte, c'est pas ça. Parce que vous allez priver... En fait, en faisant ça, 180 jours, moi je connais pas beaucoup de gens qui restent au chômage pour le plaisir de rester au chômage.
Mais Rémi l'a dit, c'est 326 jours en moyenne.
Il y en a toujours qui vont le faire. Mais au nom de ça, vous allez expliquer aux gens de CASA, la chaîne qui a fermé hier, liquidation judiciaire, 900 personnes, 98% de femmes. Vous allez leur expliquer, vous êtes au chômage, vous ne retrouverez pas de travail dans la vente. Parce que toutes les marques, on en a suffisamment parlé, sont en train de fermer. Et puis vous n'allez même pas vouloir vous reformer pour autre chose, puisque on va vous faire que 6 mois de chômage. Et vous habitez à Trifouilly-les-Oies. Et vous êtes une femme, et donc vous êtes dépendant du boulot qu'a votre mari. Donc vous n'allez pas pouvoir déménager à l'autre bout de la France pour retrouver un boulot au bout de 6 mois. Donc ça va être extrêmement compliqué à faire. Et puis moi, j'ai un truc, franchement, j'aime bien Gérald Darmanin. Il est ministre de la Justice.
Oui, de quoi je me mêle.
99,9% des employés du ministère de la Justice ont l'emploi à vie. C'est-à-dire qu'ils bossent ou qu'ils ne bossent pas, qu'ils soient bons ou qu'ils ne soient pas bons, ils auront l'emploi à vie. L'emploi à vie, zéro jour de chômage.
Et là, il parlait en tant que candidat potentiel en 2027.
C'est super. Et ben moi, le candidat potentiel, j'aimerais bien qu'il propose une mesure courageuse qui est de supprimer l'emploi à vie dans la fonction publique et de faire cotiser la fonction publique.
Ça, il a pas dit ça.
Et de faire cotiser la fonction publique au chômage. D'accord. Et là, on va être excédentaire dans plein de domaines.
Rémi Barré, comment ça se passe dans les autres pays ? Est-ce qu'on est les seuls à prendre ces mesures, c'est-à-dire à imaginer, en fait, réduire de moitié les indemnisations ?
Non, en Europe, de nombreux pays ont introduit une dégressivité des indemnités assez rapide, d'ailleurs, des indemnités chômage. En Espagne, aux Pays-Bas et en Suède, par exemple, l'indemnité, elle est réduite de 5% dès le troisième mois d'inscription au chômage. Oula. C'est 10% en moins à partir du septième mois et encore 10% en moins après 9 mois. En Belgique, l'indemnisation est dégressive par palier. Puis en Italie, elle baisse de manière continue dès le sixième mois.
Mais par contre, en Belgique, l'indemnisation, elle est à vie.
Oui. Oui.
François nous appelle de Nantes. Et François, il est conseiller France Travail depuis 17 ans. Il connaît bien le sujet. Donc bonjour François.
Bonjour l'équipe.
Bonjour.
François, est-ce que ce serait une bonne idée ça, de réduire la durée de l'indemnisation des chômeurs à 9 mois au lieu de 18?
Alors, pour moi, pas du tout. Alors, vous avez dit pas mal de choses et je vois que vous êtes bien calé sur le sujet.
Mais tout à fait. On le fait souvent, vous savez.
Chapeau. Hein. Ouais, vous faites bien votre travail, c'est très bien. Continuez.
C'est gentil. Non,
mais donc, il y a effectivement 50 personnes déjà, des personnes inscrites qui ne perçoivent pas l'assurance chômage. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, j'ai noté deux, trois choses que vous aviez dit, donc je vais pas revenir dessus. Moi, pour moi, en fait, faut s'attaquer déjà au travail qui paye pas forcément, puisque, quand on prend, par exemple, un salaire au SMIC à 30 bornes de chez soi, 60 allers-retours, qu'on propose pour, je sais plus, 1400 euros net, alors que, qu'est-ce que je veux dire? En fait, il faudrait s'attaquer plutôt à...
Il faut que le travail paye mieux que le chômage, en fait, c'est ça que vous dites.
Il faut que le travail paye mieux, faut aussi, réinvestir dans l'alternance, puisqu'on a coupé là récemment les parce que comme on dit, il y a pas mal de postes qui sont non pourvus, mais parce que les personnes ne sont pas formées à ces postes-là. Mm-hmm. Donc il faudra déjà réinjecter un peu d'argent et un peu d'aide aux entreprises par rapport aux alternances. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre?
Vous, juste François, vous occupez de combien de personnes?
Alors moi j'ai 750 personnes en portefeuille, après ça peut varier.
Vous occupez de 750 personnes, François, mais c'est énorme.
Alors ça peut aller jusqu'à 1000, hein, même voire plus, et c'est marrant parce qu'on s'aperçoit que ça fonctionne bien, le retour à l'emploi, ouais. Sur des portefeuilles réduits, notamment il y a un dispositif par rapport aux jeunes, le contrat d'engagement jeune, où les conseillers n'ont que 60 personnes en moyenne en portefeuille, et là il y a forcément un suivi beaucoup plus personnalisé, et on s'aperçoit qu'il y a un retour plus dynamique en emploi.
Il faut que vous voyez, est-ce qu'en fait François, le sujet il est aussi là, en fait ce que sous-entend Gérald Darmanin, c'est qu'il y a plein de chômeurs qui se tournent les pouces, c'est ça qu'il sous-entend le ministre de la justice. Vous, en tant que conseiller pour France Travail, vous voyez plutôt des gens qui sont vraiment en recherche active d'emploi, ou est-ce que vous voyez aussi des gens qui se tournent les pouces?
Après, il y a de tout. C'est, encore une fois, alors, c'est Fred Hermel qui disait faire du cas par cas. Alors ça, moi, je suis complètement d'accord avec ce principe-là. Aujourd'hui, on n'a pas forcément les moyens. Mais par contre, de là à pénaliser par des réformes comme ça fait au moins la sixième réforme qu'on a de l'assurance chômage depuis 6 ans. Enfin, ça n'arrête pas. Sûr. Alors, au lieu de nous, on doit toujours se réadapter, etc., réadapter les systèmes d'information, des choses comme ça. Mais au lieu de réformer à chaque fois, peut-être qu'ils nous laissent travailler efficacement, qu'ils renforcent les effectifs pour qu'on fasse des suivis un peu plus personnalisés. Et c'est pareil. Il y a aussi un intérêt peut-être à aller voir par rapport aux bénéficiaires du RSA qui, eux, ne touchent pas l'assurance chômage, mais plutôt le RSA, qui ont des aides au logement, etc. Et eux, au final, ils vivent mieux. Encore une fois, c'est du cas par cas. Une personne qui va reprendre un travail aussi, qui va faire route, qui va avoir une vieille voiture, qui va falloir entretenir, etc.
Et sur le RSA, on peut être bénéficiaire du RSA à vie, parce qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de durée régulée.
Pas confortable hein, de vivre avec le RSA. C'est quand même très très compliqué.
Mais ce que dit François, c'est qu'en fait, parfois, tu peux mieux t'en sortir avec le RSA, les APL, les différentes allocations, que si t'es chômeur et que t'as bossé. Donc là aussi, il y a peut-être
que t'es insuffisamment payé par rapport au trajet qu'on doit faire. Il y a aussi vraiment la question de combien on paye les travailleurs. Et pour moi, il ne faut pas pénaliser les gens qui ne travaillent pas. Il faut se demander pourquoi les salaires sont aussi bas.
Tout à fait. Mais après, comme disait Jérôme, sur une caissière qui était chez Casa, qui vient d'être licenciée, on peut aussi comprendre qu'elle a pris un coup de massue que pendant un ou deux mois, il va falloir qu'elle encaisse. Pendant un ou deux mois, elle ne va pas rechercher activement un travail. Mais on peut la comprendre. Et encore une fois, elle a cotisé pour le chômage.
C'est très fréquent.
Pour le RSA, tandis que le chômage, tu cotises, tu as travaillé, tu as cotisé, tu touches finalement aussi ce que tu as cotisé. Donc,
je vois pas l'intérêt d'opposer chômage et RSA parce que la question c'est la vendeuse de Casa, elle aura droit au chômage et effectivement, ça, le choc du licenciement, c'est quelque chose qui est très connu et qui fait effectivement qu'il y a des personnes qui mettent quelques mois à rebondir.
Merci beaucoup François, en tout cas, d'avoir été avec nous. François, qui est conseiller France Travail du côté de Nantes. Rémi, on a plein de messages sur l'appli RMC.
Message de Mathieu qui nous dit: salut l'équipe, je pense que Gérald Darmanin n'a pas tort, et plus généralement, je pense qu'il faudrait supprimer la pérennité des aides de toutes sortes. Le message qui doit être conduit est celui qui nous indique qu'on gagne sa vie grâce au travail et pas autrement.
Pascal Delima est notre invité sur ce débat, économiste en chef chez BKMC. Bonjour Pascal.
Bonjour Estelle, bonjour Pierre.
Merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que vous pensez que il n'y avait plus que 9 mois d'indemnisation chômage, les Français se rueraient vers le travail?
C'est un petit peu plus compliqué quand même, je pense.
Oui, c'est bien ce que je pensais aussi, oui.
Évidemment, là, il y a l'INSEE qui explique que la probabilité de retour à l'emploi effectivement augmente sensiblement à l'approche de la fin des droits. Et donc c'est cette idée de trappe à inactivité, hein, cette idée que disent les économistes libéraux qui soulignent les effets désincitatifs d'un système d'assurance chômage. Bon, ok, il y a l'argument de la dette publique et de la maîtrise des dépenses sociales, donc l'argument budgétaire. Et il y a l'argument aussi... c'est le sens aussi de la proposition, je pense, de Darmanin. Il y a près de 3 millions d'offres d'emploi qui ne trouvent pas preneur.
C'est 300 000 plutôt que 3 millions.
Ah oui, non, mais alors dans le, si on rajoute le BTP, hôtellerie, restauration, non, et non, le domicile et tout, on peut se retrouver quand même avec des chiffres assez élevés. Bon, voilà,
c'est 300 000.
La ZEAR, FEPS, bon, ça, c'est des arguments que je qualifie macro, un peu macroéconomique, un peu froid. Maintenant, vous avez les trajectoires des individus, vous avez une vision erronée du chômage, un chômage d'inadéquation plus que de paresse, à mon avis, hein. Puisque 80% des chômeurs indemnisés n'ont pas de diplôme supérieur au bac, alors que beaucoup d'offres non pourvues nécessitent des compétences techniques. Donc on est plus dans l'inadéquation. Et donc ça pénalise aussi... vous savez, les chômeurs de longue durée mettent en moyenne plus de 12 mois à retrouver un emploi stable. Donc ça pénalise les plus vulnérables, ça aggrave la précarité. Il y a des chômeurs âgés, faiblement qualifiés, les femmes seules ou en zone rurale. Bon, voilà. Donc moi, mon avis... Mon simple avis, si vous voulez, c'est que on pourrait aussi, c'est toujours un peu pareil, un peu plus dans la nuance, adapter l'assurance chômage à l'économie des parcours. Donc passer de ce modèle un peu binaire à un modèle plus modulaire, plus personnalisé, moduler les droits selon le profil, la conjoncture locale, toutes ces nuances-là,
la durée de cotisation.
Qui sont des conseillers économiques, ils peuvent le faire. Sécuriser les parcours avec une économie de transition, les freelances, l'intermittence, l'intelligence artificielle, les plateformes. C'est tout ça qu'il faut construire. On est dans un monde complexe. Et ils savent le faire. Et je trouve dommage cette vision binaire. Voilà un petit peu mon avis.
Ouais, mais vous avez raison. Je pense que tout le monde est pour le fait que, effectivement, on puisse moduler au cas par cas. Et puis, encore une fois, en fonction des cotisations, c'est totalement anormal que quelqu'un qui a cotisé 30 ans, je veux dire, soit indemnisé 9 mois. Moi, ça me paraît totalement aberrant, Jérôme Lavrieux.
Ouais, mais surtout, appliquons les lois. On a voté, je crois que c'était il y a un an et demi, deux ans,
bon, on en fait plus de deux ans, mois, façon,
sur le chômage, de dire on pourra moduler la durée d'indemnisation en fonction de la situation du chômage. Si on passe à un taux, je crois que c'était en dessous de 6%, on pourra baisser la durée de cotisation parce qu'on considère.
Des branches, hein, évidemment.
Du pôle
mais parce que ça baissait à ce moment-là, le chômage.
Oui, mais on n'y est plus. Donc appliquons la loi le moment venu. Oui, oui. On ne va pas réduire la durée d'indemnisation au moment où il y a le chômage qui remonte.
Évidemment. Évidemment. Teddy est avec nous et Teddy nous appelle de Bourges et il est demandeur d'emploi. Bonjour Teddy.
Bonjour Estelle, bonjour équipe.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Teddy, vous êtes demandeur d'emploi depuis quand?
Ça fait 2 mois et demi.
D'accord, donc vous avez encore un petit peu le temps de voir venir, on va dire.
Oui, j'ai un petit peu le temps de voir venir, notamment pour les indemnisations. Sauf que moi, mes indemnisations ne permettent pas de payer mes frais fixes. Donc j'ai le temps de voir venir au niveau du travail, mais au niveau de ma vie, c'est pas possible. C'est-à-dire que dans un mois exactement, je suis obligé de rendre mon logement et je n'ai pas de domicile.
Parce que vous faisiez quoi comme boulot, Teddy?
Alors, moi, j'étais agent de maîtrise, gestionnaire de stock, donc j'avais un bon salaire. J'étais entre 2004 et 2500 euros par mois.
D'accord.
J'ai été licencié, donc je ne vais pas le cacher, pour faute, parce que je ne m'entendais pas avec mon supérieur. Ça faisait 3 ans que j'étais en poste, enfin bref. Et donc, j'ai été licencié. Je savais que j'allais être licencié. Donc, j'ai pris les devants et depuis mi-mars, je cherche du travail. J'ai dû faire une 60aine de candidatures, toutes sans réponse ou avec des réponses automatiques.
D'accord.
Donc, les gens qui sont dans ma situation, on cherche du travail. On cherche vraiment du travail. Et quand j'entends des gens comme Monsieur Darmanin dire on va réduire, faut vivre la vraie vie pour se rendre compte qu'en fait, on cherche quoi.
Et juste, Teddy, vous avez dit je gagne entre 2004 et 2500 euros par mois. Votre indemnisation, elle est de combien?
1100. C'est-à-dire que, oui, mon indemnisation, elle a été prolongée, puisque j'étais à 2 ans et 10 mois. Vous savez, vous avez une période où on ne vous recalcule pas vos droits, on vous recharge les droits que vous aviez il y a 3 ans.
Ouais, d'accord.
Donc, comme j'ai été sur 15 jours inscrit il y a 2 ans et 10 mois, on me prend cette période de référence avec un salaire qui était à la base de 1600 euros il y a 4 ans. Enfin, je vous passe les détails.
D'accord.
Et on refuse de recalculer mon nouveau solde.
Mais évidemment, c'est une catastrophe parce que ça veut dire que votre logement, il est en adéquation avec vos 2500 euros par mois et qu'effectivement, quand vous gagnez 1100 et que vous étiez habitué à gagner le 2005, vous pouvez plus vous loger dans le même appartement. Enfin, c'est une situation évidemment qui est terrible. Alors, si en plus, je veux dire, on vous sucre vos 1100 euros par mois que vous avez mérité, hein, encore une fois, vous avez cotisé, au bout de 9 mois, vous allez vous retrouver dans une situation inextricable. Et là, ça veut dire que vous étiez propriétaire de votre logement, Teddy?
Non, j'étais locataire, heureusement.
D'accord. Et donc, donc là, vous êtes obligé de quitter votre logement et d'en chercher un autre beaucoup plus petit, j'imagine.
Oui, ou pas. Donc, parce que
1100 euros, bien sûr.
C'est quasiment les mêmes loyers ensuite. Donc,
bien sûr.
C'est un peu le chat qui se mord la queue. Donc voilà, c'est bien de proposer des choses comme ça, mais en fait, il y a vraiment des gens... Enfin, moi, j'ai 42 ans, c'est déjà dur pour moi de retrouver du travail.
Bien sûr.
Alors que j'ai quand même un parcours, je me suis fait... J'ai beaucoup d'expérience là-dedans. C'est quand même très dur. Donc, quand j'entends des gens dire « on va réduire », c'est bien beau, mais au bout d'un moment, on va créer de la misère.
Teddy, juste dernière question. Est-ce que vous seriez prêt à accepter un boulot dans une autre branche ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que, par exemple, dans le secteur de l'hôtellerie-restauration ou du BTP, on cherche des gens. Est-ce que vous seriez prêt, vous, à changer de boulot pour trouver, justement ?
Mais, moi, j'ai postulé à des boulots qui ne sont pas dans ma branche. En
D'accord.
fait, j'ai essayé de mettre même mise en rayon. On m'a demandé de l'expérience. Voilà.
D'accord. Donc,
Moi, je veux bien. Après, je veux bien tout essayer. Je suis pas doué, on va dire, avec le relationnel client, mais je veux bien essayer la restauration. Pourquoi pas? Après, quand on postule, faut répondre aussi, quoi.
Exactement, ça je suis entièrement d'accord, et c'est aussi la faute des employeurs qui ne répondent pas, ou recevoir une réponse automatique quand on est au chômage depuis quelques mois, ça doit être évidemment terrible. Merci en tout cas pour ce témoignage, Teddy. En tout cas, si vous êtes patron, que vous recherchez quelqu'un comme agent de maîtrise dans la logistique, bah Teddy il est du côté de Bourges, dans le Cher, et n'hésitez pas, on vous mettra en relation, vous nous appelez au 3216 et on vous mettra en relation. Merci beaucoup Teddy en tout cas d'avoir été avec nous, et merci pour ce témoignage. On a également Nicolas en ligne qui nous appelle du Maine-et-Loire, de Beaupréau en Mauges. Et Nicolas, il est également demandeur d'emploi. Bonjour Nicolas.
Bonjour Estelle, bonjour à toute l'équipe.
Nicolas, vous êtes au chômage depuis quand ?
Depuis le 15 juillet 2024.
D'accord, donc ça fait près de un an. Vous cherchez dans quelle branche ?
Alors je dirais, moi j'ai une expérience plutôt de manager.
Ok.
Avec plus de 30.